Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer.
Chaque jour à vos côtés, on vous accompagne jusqu'à 18h au rythme de vos placements et des marchés financiers. Des marchés qui entament cette nouvelle semaine dans la timidité, dans l'attentisme avant les très nombreuses publications d'entreprises qui vont animer le marché tout au long de cette semaine. Ça va accélérer aux États-Unis. Les GAFAM entrent dans la danse. Demain, Microsoft annoncera ses résultats. Et puis ici en Europe, on entre véritablement aussi dans la saison de publication cette semaine. Trois groupes du CAC vont annoncer leurs résultats ou leurs chiffres d'affaires. Alstom, ST Microelectronics et surtout LVMH. Ce sera jeudi après la clôture. LVMH, on va aussi anticiper cet obstacle, j'ai envie de dire, pour les marchés financiers. L'optimisme de ce début d'année sur les marchés sera mis à l'épreuve des publications. On va mesurer ce que les marchés ont dans le ventre face à ce que nous annonceront les entreprises et ce sera donc une semaine extrêmement instructive. Alors que sur le front macroéconomique, bon, un peu moins d'actu à venir puisque les banquiers centraux devront moins communiquer ces prochains jours. En tout cas, les membres de la Fed ne peuvent plus communiquer jusqu'au 1er février, date à laquelle la Fed annoncera sa décision de politique monétaire. On entre dans le traditionnel blackout qui précède la décision politique monétaire de la Fed. Du côté de la BCE, quelques expressions encore à attendre cette semaine, et notamment tout à l'heure, Christine Lagarde, qui doit s'exprimer après 18h tout à l'heure, Christine Lagarde, à l'occasion d'un événement en Allemagne. On verra si elle parle de politique monétaire, et bien sûr, les marchés qui l'attendent au tournant, qui attendent toute expression au tournant, dans la mesure où la BCE pourrait continuer de resserrer la vis plus longtemps que la Fed. On voit donc l'euro progresser face au dollar. C'est peut-être le fait de ce début de semaine. L'euro tout à l'heure a franchi la barre d'1,09$. Oui, plus d'1,09$. Ça a duré quelques secondes. Le niveau le plus élevé pour l'euro face au billet vert depuis le mois d'avril dernier. On évoquera l'impact de cette remontée de l'euro face au dollar sur l'ensemble de vos placements et de vos investissements. On est à vos côtés, on joue dans votre camp donc pour encore quasiment une heure. Et tout de suite, on va aussi parcourir le reste de l'actualité économique du jour en démarrant par la réforme des retraites. Faiza nous rejoint, Faiza Younzi en direct sur BFM Business.
BFM Business, l'info éco.
La réforme des retraites qui était au menu du Conseil des ministres ce matin. Pas question de renoncer au report de l'âge de départ à 64 ans pour le gouvernement. Le gouvernement qui ouvre la porte aux discussions concernant les carrières longues. Par ailleurs, l'exécutif se prépare à sanctionner les entreprises de plus de 300 salariés qui ne publieraient pas leur index senior, baromètre de l'emploi des plus de 55 ans au sein des établissements. L'inflation plombe le résultat de la RATP avec 100 millions d'euros de profit attendus pour 2022, trois fois moins que ce qui était prévu initialement. Quant à 2023, ça devrait être encore pire, prévient Jean Castex, le PDG de la RATP. Le résultat net qui était prévu au-delà de 330 millions d'euros ne va pas dépasser les 30 millions. Nouveau plan social dans la tech, cette fois-ci chez Spotify, qui va supprimer 6% de ses effectifs, soit environ 600 postes. Le numéro 1 mondial des plateformes audio souhaite mieux contrôler ses coûts alors que l'environnement économique est de plus en plus compliqué. En Allemagne, PayPal dans le viseur du gendarme de la concurrence. L'office anti-cartel vient d'ouvrir une procédure contre la fintech pour entrave aux droits de la concurrence dans ses contrats avec les commerçants en ligne. Également dans l'actualité, cet appel à la grève chez Ubisoft pour ce vendredi. Les deux principaux syndicats du jeu vidéo souhaitent mobiliser les salariés pour dénoncer les pratiques managériales de la direction. Un appel qui fait suite aux dernières réunions avec le management. Autre revendication, l'ouverture des négociations salariales pour obtenir des revalorisations au moins à hauteur de l'inflation. LVMH ne va pas installer son centre de recherche à Saclay, près de Polytechnique. Le géant du luxe a renoncé à son projet, mais pas au partenariat de recherche avec l'école, à 2 millions d'euros par an pendant 5 ans. Des étudiants rassemblés en collectif s'étaient vivement opposés à ce projet d'installation du bâtiment à proximité de l'école, qui, elle, avait donné son feu vert. LVMH, donc, préfère opter pour un autre terrain en Ile-de-France. Il y a eu moins de boursicoteurs en France en 2022. Environ 1,5 million de particuliers ont acheté ou vendu des actions l'an dernier, selon l'AMF, l'autorité des marchés financiers. C'est un chiffre élevé, mais qui est un peu moins important qu'en 2021. 2021 qui était une année record.
BFM Business. BFM Bourse. le club.
Merci Faïza, vous nous accompagnez tout au long de cette fin de journée. Et les investisseurs en bourse, bien sûr, ont rendez-vous chaque soir avec le club jusqu'à la clôture. Et jusqu'à 18h, on est à vos côtés sur BFM Business pour analyser les tendances de marché, essayer d'anticiper surtout du mieux possible la suite grâce à nos coéquipiers du club. Ils viennent de nous rejoindre, Christian Parizeau. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Bienvenue, président d'Altair Economics et conseiller économique pour Aurel BGC. Yves Maillot nous accompagne également ce soir. Bonsoir Yves.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue, le président de YAM Capital. Bon, cette semaine sera intéressante. Alors bien sûr, sur le front macroéconomique, demain on aura des données, notamment les PMI en zone euro. On verra si le moral continue de se redresser sur les perspectives macroéconomiques de la zone euro, puisque les prix de l'énergie rebaissent et on n'a pas de pénurie énergétique pour l'instant, alors qu'on est au cœur de l'hiver. Et on verra donc si ces PMI qui seront publiés demain repassent, pourquoi pas, en zone d'expansion. On était au-dessus de 49 au mois de décembre. Est-ce qu'on franchirait les 50 au mois de janvier? On va se poser la question dans un instant. D'abord, Christian, les publications des entreprises. Parce que ça, ce sera vraiment la nouvelle donne par rapport aux dernières semaines. On va avoir beaucoup plus de publications cette semaine. On va voir ce que les marchés ont dans le ventre et les entreprises surtout. Voir si l'optimisme incroyable de ce début d'année en bourse peut résister à ce que nous annoncerons les entreprises. Vous êtes dans le camp des optimistes là-dessus ou pas?
Oui, alors, faut quand même reconnaître que les bancaires étaient pas exceptionnels, les publications, et le marché a bien résisté quand même à des discours qui étaient pas euphoriques et des résultats en eux-mêmes qui étaient pas non plus exceptionnels, hein. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'ils nous ont pas fait la fin du monde, hein. Ils nous ont dit qu'il y avait une petite hausse des défauts. On était dans une image d'une économie américaine connaissant une petite récession, hein. Et dans leur modèle et dans leur prévision qu'ils ont pu passer, on voit qu'ils sont pas non plus sur un discours excessif. Mais bon, les résultats des bancaires n'étaient pas très bons en soi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder d'une part un élément qui est complètement déconnecté de la conjoncture, qui est l'élément, la capacité de restructuration des entreprises. Et on l'a vu avec ce qui s'est passé vendredi en bourse. On joue finalement plus que le résultat de Microsoft, plus que la croissance du chiffre d'affaires. On joue l'effet restructuration. Et c'est vrai que s'il y a un secteur qui va être particulièrement regardé, c'est le secteur techno. Parce que le secteur technologique, il a souffert tout au long de l'année dernière de la remontée des taux longs. Et ça, c'est un effet valorisation, un effet taux qui impacte beaucoup les valeurs de croissance. Et puis, il a souffert quand même de mauvaises nouvelles sur l'activité. Or, on sait que du jour au lendemain, ça va pas se retourner. Le marché publicitaire est plutôt, notamment les dépenses publicitaires sur Internet vont être très très mal orientées. On sent aussi, et on a eu quand même suffisamment de communication, que les entreprises commencent, notamment aux États-Unis, mais partout dans le monde, à réduire leurs investissements technologiques. Alors, contre-effet, après le Covid, on commence à peut-être un peu limiter les dépenses. Et puis, si on doit limiter les coûts, bah on resserre un peu partout et le secteur tech n'y échappe pas. Par contre, le secteur technologique a un gros levier qui est véritablement ses restructurations et son impact sur les marges. Donc plus que, je dirais, que l'effet économique, on va regarder de très près les valeurs technologiques qui vont publier cette semaine. Elles sont assez nombreuses pour voir un petit peu les effets de levier qu'on peut avoir. Après, on va...
Et c'est vrai, juste pour rester là-dessus, c'est vrai qu'à chaque fois qu'une entreprise de la tech nous annonce des licenciements, aujourd'hui c'est Spotify. Bah, le marché achète parce que, voilà, on se dit, ils sont en train de faire des efforts pour tenter de préserver leur marge. Spotify gagne 2% après l'annonce à son tour aujourd'hui de licenciement.
Ouais. Voilà, c'est là où il y a un gros levier. On le sait qu'il y a un gros levier en termes de résultats. Maintenant, c'est jamais quand même très satisfaisant de se dire qu'on achète une valeur parce qu'elle est en train de licencier et peut-être caper sa croissance à venir puisque c'est des investissements en moins. Mais on va dire qu'il y a eu pas mal peut-être d'investissements peu productifs dans ce secteur et qui a du ménage à faire. En tout cas, il y a cet effet-là. Et après, on aura véritablement des éléments très discriminants selon les secteurs, à mon avis. Il y a des secteurs qui vont très bien se porter, tout ce qui est aéronautique défense, tout ce qui est secteur qui profite encore de solide croissance, de reprise, hein, on l'a vu dans l'aérien, on l'a vu dans certains secteurs. Donc ces secteurs-là vont sortir plutôt des bons résultats, puis on va avoir d'autres qui vont être vraiment en difficulté. Et je pense que des secteurs industriels, notamment, vont être réellement en difficulté. Des secteurs de biens de consommation durables qui seront nettement... Donc, je pense que ça sera tellement mitigé, illisible, parce qu'on n'est pas véritablement dans une récession classique avec toujours les mêmes secteurs qui souffrent de la même manière, que je pense qu'on va avoir beaucoup de volatilité, mais pas forcément de grandes tendances sur les marchés. Et je reste persuadé que les deux thématiques centrales du marché, ça reste encore et toujours les politiques monétaires, et ça, on verra ça en début février, on en reparlera, et puis surtout la Chine, la réouverture de la Chine, qui reste vraiment la thématique centrale aujourd'hui, puisque de la Chine, on peut avoir du bon et du mauvais. Le côté bon, bah, c'est atténuation des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, moins de pression inflationniste. Le mauvais, bah, c'est une croissance très forte qui va tirer vers le haut les prix des matières premières et l'énergie. Donc, c'est vrai que la Chine, ça reste à mon avis, et les politiques monétaires resteront au centre, et derrière, les résultats d'entreprise seront un peu plus plus mitigé, on va dire, mais pas forcément directionnel sur les indices.
Vous attendez, vous aussi Yves, vous vous attendez à ce que les résultats des entreprises, alors bien sûr, entraînent des réactions de marché, petite partie de secteur par secteur, mais n'entraînent pas de mouvement directionnel sur les indices ?
Je partage assez ce que vient de dire Christian. Je pense qu'à part vraiment des très mauvaises surprises, je pense que ça ne devrait pas avoir tant d'effet que ça. Alors au cas par cas, secteur, je pense que les choses vont être assez partagées. Mais effectivement, j'ai la sensation que le marché est quand même porté par des éléments de flux dans une tendance vraiment positive. D'ailleurs, moi, je mesure au scepticisme général des intervenants sur le marché. Et que donc, encore une fois, mis à part des vraiment mauvaises surprises qui se généraliseraient ou sur des très grosses entreprises, je pense pas que c'est autant d'effets que ça dans la globalité du marché. Évidemment, il y a quelques secteurs qui peuvent être vraiment en prise aux difficultés qui résultent de ce qu'on a vécu depuis maintenant 6 mois, 12 mois, à savoir le renchérissement des coûts, des matières premières, le coût de l'énergie, genre de choses. Mais globalement, voilà un petit peu ce que j'en pense. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, ça devrait être beaucoup plus partagé que les trimestres précédents tout au long de l'année 2022, où là, ça tranchait d'ailleurs par rapport à la tendance des prix sur les bourses. On a eu finalement, des trimestres se sont succédés, on était à chaque fois agréablement surpris par les résultats économiques des entreprises.
C'est ça, c'est que là, par rapport au précédent trimestre, on devrait avoir beaucoup plus de signes de décélération et peut-être même de pression sur les marges.
Voilà, et pourtant, moi, j'ai la sensation que, et on le voit depuis quelques jours, alors les trois premières semaines ne font pas toute la tendance de l'année, mais que le marché est beaucoup mieux orienté.
Souvent, si.
Mais, oui, enfin, c'est bon, vrai, sauf quand c'est pas vrai. Mais oui. Mais voilà, c'est un peu un paradoxe, mais c'est ce qui risque de se produire, parce que comme le disait Christian, quand même, un des éléments déterminants encore, probablement, de l'évolution des marchés pour l'année qui vient, c'est le discours et les actes des banquiers centraux tout au long de l'année. Hein. C'est encore ce qu'on va scruter de façon très, très précise dans les semaines qui viennent.
Oui. Alors même si on le disait, on entre dans le blackout, en l'occurrence, les membres de la Fed ne peuvent plus communiquer jusqu'à la décision du 1er février. Là, c'est le cas à chaque fois dans les 10 jours qui précèdent les décisions de politique monétaire. On voit, c'est peut-être le fait de ce début de semaine, en attendant les publications, on voit ce mouvement sur les devises. L'euro, tout à l'heure, a franchi à la hausse la barre d'1,09$, parce que d'un côté, on s'attend à un ralentissement des hausses de taux de la Fed, alors peut-être à tort d'ailleurs, et de l'autre, en Europe, on attend au contraire un maintien du rythme à 50 points de base. L'un des membres de la BCE l'a d'ailleurs dit ce week-end, on aura une hausse de 50 points en février, une autre hausse de 50 en mars, et une hausse de 50 points encore à chacune des réunions suivantes. Et du coup, l'euro qui a franchi à la hausse la barre d'1,09$. Il faut s'en réjouir de cette remontée de l'euro? Vous estimez qu'elle est durable, qu'on est qu'au milieu du mouvement? Enfin, comment est-ce que vous regardez ce qui est en train de se passer quand même sur ce marché des devises?
C'est pas s'il faut s'en réjouir. Enfin, c'est toujours mieux de vivre avec une monnaie forte qu'une monnaie faible. Enfin, l'euro a été tellement volatile depuis 18 mois. Non, en fait, ce que je crains... Alors, d'abord, il faut signaler que... depuis le point bas de l'euro, qui est finalement contre dollar, qui est finalement encore assez récent, hein, on remonte à 3 mois... un peu plus de 3 mois, on est quand même sur une hausse vraiment très significative, c'est-à-dire grosso modo...
On a repris 14% à peu près.
J'allais dire, c'est ça, un peu plus de 12%, ce qui équivaut déjà des remontées de taux. Hein. Alors, évidemment, on avait tellement baissé l'année dernière contre le dollar qu'il faut un peu relativiser ce que je viens de dire par rapport à son point bas. Mais malheureusement, ce que je constate, c'est que la BCE avait pris beaucoup de retard sur la Fed et qu'on a un peu l'impression qu'elle est en train d'essayer de combler très vite son retard. Quoi qu'il se passe finalement sur la conjoncture en Europe.
Mais elle s'améliore, la conjoncture. Elle n'est pas aussi horrible qu'on aurait pu le croire.
Alors elle s'améliore par rapport à ce qu'on anticipait, pas par rapport à ce que était le taux de croissance il y a un an. Hein. Donc voilà. Donc je ne sais pas s'il faut s'en réjouir objectivement. Hein. C'est un fait. C'est un facteur de une combinaison de variables très compliquée, ces décisions de banque centrale. Si on regarde les choses brutalement par rapport au dernier taux d'inflation connu, on est bien d'accord sur le fait que les taux pratiqués sont très très loin de l'évolution des prix. Hein. Mais encore une fois, on sait aussi le poids de la composante non-core, c'est-à-dire non structurelle, qui résulte du coût des matières premières et de l'énergie. Oui. Donc tout ça est assez compliqué à analyser.
Mais est-ce qu'il faut se réjouir, parce qu'on entend beaucoup d'intervenants se réjouir de la remontée de l'euro en disant bah, tant mieux, ce sera autant d'inflation en moins et ça soulagera encore un peu plus la BCE, ça permettra peut-être enfin un ralentissement des hausses de taux, voir la hausse de l'euro comme ça devrait permettre de voir le vœu des marchés s'exaucer, à savoir moins de hausse de taux.
Alors, ça peut jouer sur un élément. Il y a un élément qui fait peur aux banquiers centraux actuellement, je pense, c'est ce qu'on appelle les conditions financières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur grande peur, c'est que les marchés, par un excès d'optimisme, et ça c'était très clairement mis en avant dans un des paragraphes en décembre, dans les dernières minutes du FOMC de décembre, c'est que les marchés, par leur très grand optimisme, assouplissent les conditions financières. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si, par exemple, vous avez aujourd'hui, vous avez une Fed qui est à la manœuvre, qui dit, voilà, je fais tout pour lutter contre l'inflation, mais de l'autre, les marchés se disent, ça y est, la Fed va plus bouger, on a vaincu l'inflation, on est en mouvement de désinflation, alors on est encore loin d'être revenu à l'objectif, mais les marchés sont très optimistes, les taux longs commencent à baisser de manière très importante, la bourse s'envole, donc ça relance l'investissement, l'optimisme des entreprises, ça relance le secteur technologique, les taux qui baissent, ça relance l'immobilier. Et donc, finalement, on redémarre sur un deuxième semestre avec une reprise de l'inflation. Et c'est ça qui leur fait peur. Alors, c'est un peu paradoxal de dire ça, mais je pense qu'ils ont vraiment, vraiment un élément en tête. Ça serait le pire pour eux en termes de crédibilité. Déjà, ils ont loupé leur démarrage de l'inflation. Ils ont cru que c'était temporaire. Ça, c'est devenu plus durable qu'ils le pensaient. Et puis derrière, ils baisseraient leur garde trop vite. Il laisserait l'inflation repartir et il serait obligé de repartir dans leur phase de remonter les taux. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas leur fameux taux terminal. Ça serait pas un vrai taux terminal. Il faudra remonter les taux ensuite. Donc ça, c'est leur cauchemar en ce moment. Donc ce qu'ils veulent, c'est maintenir la pression sur les marchés, très clairement. C'est-à-dire qu'il faut peut-être commencer à ralentir les hausses de taux, peut-être envisager une pause, mais pas être trop accommodant dans le discours pour pas que les marchés s'emballent. Et c'est là où le discours a du mal à passer, parce que les marchés ont dit, regardez l'inflation, regardez les derniers chiffres, on est vraiment dans la désinflation, tout va aller bien, vous avez fait beaucoup, donc c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin, et on voit ces taux longs qui baissent de manière assez importante et qui restimulent l'économie. Donc c'est le pire des scénarios aujourd'hui, c'est très très délicat à la manœuvre. À l'inverse, s'ils ont un taux trop dur, on va dire, ils vont casser la croissance, ils vont faire un mouvement de panique, mais s'ils ont un taux trop accommodant, les marchés s'envolent. Donc je pense qu'ils sont là-dessus. Alors, là-dessus, en plus, il y a un vrai problème en Europe de communication. C'est-à-dire qu'on a clairement des banquiers centraux qui sont très faucons au sein de l'Europe. Et on l'a vu lors des minutes qu'on a eues de la dernière réunion de la BCE qui ont été publiées la semaine dernière. On a vu qu'il y a eu vraiment des discussions très fortes entre les colombes et les faucons. Les agences de presse nous disent vendredi, il y a quelques colombes qui sont en train de monter en puissance au sein de la BCE. Le marché dit, c'est génial, c'est super. Là-dessus, on a le gouverneur des Pays-Bas qui nous parle et qui est lui, faucon de chez faucon, et qui remet une belle couche et qui casse tout. Et donc l'euro remonte là-dessus. Bon, on n'a pas de visibilité, encore moins de visibilité sur l'Europe, parce qu'on a vu que la dernière réunion, c'est Madame Lagarde qui a trouvé finalement un compromis en disant, on ne monte que de 50 points de base, mais durant la conférence de presse, je ferai une phrase un petit peu faucon pour calmer un peu tout le monde. Donc on voit que ça tient à un fil, que les décisions de la BCE sont encore moins lisibles que ceux de la Fed. Mais... et donc tout ça crée beaucoup d'incertitudes, à mon avis, sur ce qu'ils vont réellement faire.
À la limite, on va rejoindre dans un instant Sabrina à New York, mais à la limite, il faudrait espérer, demain, on aura un chiffre pour la zone euro, le PMI composite, mesurer le moral des directeurs d'achat. Il faudrait espérer que ce PMI ne continue pas de remonter, sinon la BCE voudra encore plus refroidir les choses et peut-être gardera une option beaucoup plus faucon. Et puis aussi à suivre du côté des taux, l'Italie, cette détente sur l'Italie. L'écart de taux avec l'Allemagne s'est considérablement resserré. Est-ce qu'on doit, alors s'en réjouir sans doute, mais est-ce qu'on peut aussi craindre que cette moindre pression sur l'Italie, ce moindre risque de fragmentation du coup en zone euro, n'aide certains faucons de la BCE à pousser encore un peu plus leurs convictions et peut-être porter les taux encore un peu plus haut, dans la mesure où donc sur l'Italie le risque est en train de s'évanouir, de s'éteindre, et donc on peut aller un peu plus loin dans les hausses de taux, dans la mesure où l'écart de taux entre Italie et Allemagne s'est resserré.
Oui, alors très clairement, il y a une des craintes des faucons de la BCE, c'est que les politiques budgétaires soient nettement trop accommodantes sur cette année 2023. Et ça, c'est vraiment leur crainte. Et donc, encore une fois, que les taux soient trop bas, que les investisseurs achètent trop facilement de la dette, c'est pas bien vu aujourd'hui par les banquiers centraux. Ils veulent pas un crack, ils veulent pas un crack obligataire, je vous dis pas non plus ça, mais ce qu'ils veulent pas, c'est qu'aujourd'hui encore, on ait ce qu'on appelle des conditions financières trop accommodantes. Et donc, ils veulent que les marchés donnent vraiment un prix du risque. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, ils l'ont tué, le risque, pendant des années, et maintenant, ils sont en train de nous dire qu'il faut le remettre. Donc, c'est un peu paradoxal comme discours. jour. Mais ils veulent remettre du prix du risque. Ouais. Et donc aujourd'hui, très clairement, ce qui les inquiète, c'est que les efforts budgétaires ne soient pas faits en Europe. Et ça, c'est ce qui alimente le plus le discours des faucons. Donc derrière aussi la volonté de remonter les taux, il y a une volonté véritablement qu'il y ait une pression très forte sur les États pour qu'ils assainissent leur budget. Et c'est vrai qu'on part mal, puisque avec ce qu'a mis en place l'Allemagne, aujourd'hui, un plan monstrueux en termes de montant. Hein. Alors, ils ont les moyens financiers, ils ont la flexibilité budgétaire pour le faire, mais qui va certes atténuer les pressions inflationnistes, mais qui crée des distorsions très importantes au sein de l'Europe et crée naturellement un soutien très important à l'Allemagne. Parce qu'aujourd'hui, faut quand même reconnaître, on dit que les statistiques sont pas aussi mauvaises en Europe que ce qu'on anticipait, mais c'est aussi grâce à l'Allemagne et ce plan budgétaire. Et si aujourd'hui, vous avez le chancelier allemand qui nous dit l'Allemagne ne va pas rentrer en récession, bah avec ce qu'il a mis sur la table et le plan qu'il a mis, oui, heureusement que l'Allemagne ne rentre pas en récession.
Pardon, mais à part le Royaume-Uni où on retrouve une politique un peu plus orthodoxe d'un point de vue budgétaire, en tout cas c'est ce que souhaite mettre en œuvre et en place le gouvernement actuel, à part au Royaume-Uni, on va vers plus de dépenses, ne serait-ce que pour des questions d'armement, de défense. On l'a vu avec aussi le budget prévisionnel des armées d'Emmanuel Macron, c'était en fin de semaine dernière. Et les valeurs de défense, du coup, ont beaucoup progressé. On va s'en reparler dans un instant. Tout de suite, on va rejoindre aussi à New York, en direct sur BFM Business, notre correspondante sur place, Sabrina Quagliozzi. Rebonsoir Sabrina. On est ravis de vous retrouver. Comment les indices américains évoluent-ils en ce début de semaine et en direct ?
Ravi de vous retrouver également avec un marché qui est actuellement sur les plus hauts niveaux de la séance. Ça s'accélère après un tout début de séance qui était quand même relativement hésitant. On est désormais sur de belles progressions et sur les trois indices américains. Le Nasdaq en hausse de plus de 2% actuellement. On est à 11 371 points. Le S&P 500 plus 1,5%. Le Dow Jones grimpe de 1,11%. On est à 33 746 points sur l'indice des indices américains qui sont en hausse donc sur l'ensemble de l'année et qui attendent bien sûr, sans parler avec vos invités, hein, cette réunion de la Réserve fédérale américaine, la Fed qui doit se prononcer la semaine prochaine, un marché qui attend une hausse de 25 points de base et qui veut en savoir un petit peu plus sur l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine dans ce contexte bien particulier, avec encore cette semaine beaucoup de résultats d'entreprises à surveiller dans le secteur aérien, dans le secteur télécom, le secteur tech également, avec une actualité entreprise marquée justement par le secteur tech et Salesforce, Elliott Management, l'investisseur activiste a investi plusieurs milliards de dollars dans la société. C'est ce que rapporte la presse avec un titre qui est en progression de pratiquement 4% actuellement. On est à 157 dollars. Vous avez AMD qui profite d'une note de Barclays qui est passée de neutre à surpondéré sur le titre. AMD est en hausse de 8%. Actuellement. Parmi les autres valeurs que l'on surveille, Spotify, des licenciements, ça continue dans le secteur avec des réductions d'effectifs de 6%, 600 employés, avec Spotify qui annonce parallèlement le départ de son responsable du contenu. Le titre est en hausse de 3,7%, 101,58 $. Le reste de l'actualité, Disney, avec le carton d'Avatar 2. Le film a franchi la barre des 2 milliards de dollars de recettes mondiales. Disney en hausse donc ce matin de pratiquement 2%. Et puis on garde un œil aussi sur le secteur bancaire avec Bank of America, JP Morgan et d'autres banques qui seraient en train de plancher sur un nouveau moyen de paiement pour faire ses achats en ligne pour concurrencer Apple Pay et PayPal, notamment portefeuille numérique. Et le secteur est en hausse, plus 1% pour Bank of America, plus 1,6% pour JP Morgan. De son côté, PayPal affiche une petite hausse de 0,5%. Dans une tendance donc bien positive, belle hausse pour démarrer cette semaine sur les marchés américains. Le Dow Jones en prend 1,1%, le S&P 500 1,5% et on repasse au-dessus des 4000 points, 4030 points. Le Nasdaq de son côté affiche une hausse beaucoup plus marquée de 2%, 11 359 points, Guillaume.
Merci Sabrina, vous nous accompagnez bien sûr depuis New York tout au long de cette séance américaine et à Paris on a aussi accéléré, plus 0,6 désormais sur le CAC 40, 7041 points. On en parle avec ce soir pour nous accompagner nos coéquipiers du club, Yves Maillot, le président de YAM Capital, et Christian Parizeau, le président d'Altair Economics. On va parler de la Chine dans un instant et de sa réouverture, même si cette semaine la Chine sera fermée, pas la Chine, mais les marchés chinois seront fermés avec le nouvel an. Mais d'abord Yves, la surperformance européenne depuis le début de l'année, vous privilégieriez encore l'Europe pour la suite, où vous voyez quand même Wall Street reprendre le dessus?
Non, moi, pour deux raisons. Je pense que les actions américaines devraient reprendre le dessus dans la mesure où l'Europe a largement surperformé. Alors certes, après des années de contre-performance, mais qu'on l'a dit, l'euro a quand même fait un bout de chemin très très rapide. Et je pense que les choses vont se rééquilibrer un tout petit peu en termes de mouvement de capitaux.
Ça rend nos marchés plus chers, les valorisations plus élevées.
La oui, montée même de l'euro, si on avait vraiment de la marge il y a encore peu de temps. Donc ça aussi peut expliquer pourquoi les non-résidents ont racheté de l'Europe, là où ils étaient quand même assez nettement sous-pondérés. Puis le deuxième élément, eh bien, c'est que ce qui caractérise quand même la performance des bourses américaines depuis pas mal de temps, c'est la surpondération en valeur technologique et Internet. Et que ce secteur me semble capable de reprendre une partie de la performance qu'il a lâchée qu'il a lâchée depuis maintenant un an et demi.
Vous voyez les as se réaligner en faveur de la tech américaine ?
Oui, absolument. Si on s'inscrit dans une poursuite du mouvement de hausse, c'est ce qui devrait quelque part prendre le relais de l'amorce de mouvement haussier qu'on connaît depuis quelques semaines. Alors certes, à très très court terme, on est peut-être sur une phase un peu un petit peu de consolidation, quoique aux États-Unis on a un schéma technique qui est un petit peu différent, et on constate là quand même que des flux reviennent progressivement sur le marché Nasdaq. Il y a là l'échéance quand même des publications. On a dit précédemment que les annonces de restructuration étaient quand même un élément qui pouvait être un game changer sur cette tendance qui était négative pour l'instant pour le secteur. Mais donc voilà, pour répondre à cette question, moi je constate une amélioration régulière depuis quelques semaines du marché, et c'est le segment qui semble le plus en retard quand on regarde les choses au niveau global.
Oui.
Voilà. Et donc il y a une claire différence d'allocation sectorielle entre Europe et États-Unis. Voilà, non pas qu'il n'y ait pas des choses à faire du côté européen, mais pour répondre précisément à la question, j'ai plutôt cette impression-là. Oui.
Bon, dans la tech américaine, on a aussi Apple qui, d'après en l'occurrence le ministre du Commerce et de l'Industrie indien, Apple envisagerait de fabriquer 25% de ses iPhones en Inde. Voilà. Bon, à suivre, mais c'est quand même, on parle là de la première capitalisation mondiale. On verra aussi ce qu'Apple délivre à l'occasion des nombreuses publications qu'ils font que démarrer. C'est la value, ce sont les thématiques les plus décotées qui ont porté la hausse des marchés depuis le mois de septembre, la fin du mois de septembre. Vous estimez, Christian, que c'est encore sur cette thématique qu'il faut aujourd'hui renforcer ses positions, ou qu'au contraire on va vers une nouvelle rotation sectorielle, rotation thématique?
Alors, c'est compliqué, parce que ce qui a vraiment porté à un moment donné, c'est l'idée de désinflation. Donc l'idée de désinflation, ça veut dire que on a peut-être une pression sur les marges des entreprises, mais d'un autre côté, désinflation, ça veut dire aussi moins de hausse de taux. Donc on a l'aspect peut-être négatif. Pourquoi pression sur les marges des entreprises? Parce que s'il y a ceux qui font l'inflation, c'est quand les entreprises montent leur prix de vente. Donc si on a un mouvement de désinflation, ça veut dire que les entreprises montent moins leur prix de vente, donc les chiffres d'affaires progressent moins vite, et puis derrière, s'ils ont des hausses de coûts, ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile de le répercuter sur ses prix de vente. Donc, ça veut dire pression sur les marges. Donc, le mouvement de désinflation est plutôt négatif pour la bourse, hein, contrairement à l'inflation. Mais par contre, ce qui est très positif, c'est le côté taux d'intérêt. Puisque avec un mouvement de désinflation, on s'est dit, les banquiers centraux, c'est fini, ils ont fait le job, ils vont plus rien faire. Et du coup, on a ces taux longs, et on a eu d'abord les investisseurs qui sont venus quand même assez massivement sur le marché obligataire en tout début d'année. Donc ça favorise plutôt des valeurs de croissance, dites de croissance. On va jouer le luxe, on va jouer là-dessus les valeurs, comme on a dit, technologiques, etc. Maintenant, il y a une deuxième problématique, c'est la Chine. Et la Chine nous brouille les cartes, parce que la Chine, moi je pense qu'en net-net, c'est plus d'inflation. Parce que via l'effet matières premières, via l'effet hausse des prix de l'énergie, du pétrole. Et on l'a vu quand même, le pétrole qui a fait déjà un beau mouvement sur que des anticipations autour de la Chine. Hein. C'est pas autre chose qui alimente le rebond aujourd'hui des cours de pétrole.
Le baril de Brent est à 89 dollars quasiment en ce moment.
Ouais. Voilà, donc on a eu un beau mouvement sur le pétrole.
Le cuivre aussi.
Et ça c'est pas bon pour la bourse quelque part, parce que ça veut dire peut-être plus de hausse de taux à terme pour les banquiers centraux, ou alors que les entreprises poursuivent ce mouvement de désinflation, donc ça veut dire moins de marge, parce qu'elles vont avoir une hausse de leurs coûts qu'elles vont pas pouvoir répercuter aux consommateurs. Donc ça, c'est plutôt un élément négatif. Donc je pense que le marché en ce moment est en train de se dire, il y a quand même peut-être quelque chose à jouer, qui est plutôt l'idée que les entreprises vont avoir du mal à répercuter ça aux consommateurs. On a quand même un vrai retour des consommateurs qui sont devenus très sensibles à l'inflation. On voit qu'il n'y a pas de boucle prix-salaire, Donc si moi je suis pas augmenté, au bout d'un moment, ça va être très difficile de me faire accepter de nouvelles hausses de prix, ou sinon je réduis ma consommation. Donc les marchés sont en train de se dire que le vrai impact, ce sera peut-être plus sur les marges. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment un call valeur de croissance qu'il faut avoir. Faut aller vers les valeurs technologiques, puisqu'on va rejouer la restructuration, l'effet de levier des restructurations, et puis le fait que les banquiers centraux n'ont peut-être pas beaucoup à faire en termes de relever des taux, et on va pas rejouer le retour de l'inflation. Et il faut peut-être jouer les matières premières, puisqu'on va avoir cette envolée avec la Chine, et puis surtout les secteurs comme le luxe, qui vont profiter de cette demande chinoise, puisque je vous rappelle que les Chinois, ils ont épargné. Ils ont fait comme les Européens. Ils ont énormément accumulé d'épargne. Et donc, avec la réouverture de l'économie chinoise, on va avoir une consommation, et notamment de biens de luxe, qui va être explosive, au moins à court terme. Mais en tout cas, on peut refaire quelque part le schéma qu'on a connu en Occident au moment de la sortie du Covid. Et là, ça va être un vrai effet positif pour certaines boîtes. Donc, je pense qu'il y a vraiment des rotations à faire sur les marchés. Et donc là, on va avoir quand même un petit call vraiment valeur de croissance dans les prochains mois.
Bon, mais sauf que si les matières premières continuent de progresser avec la réouverture chinoise, les baisses de taux que les marchés anticipent aussi, parce que les marchés anticipent carrément des baisses de taux pour 2024. Ces baisses de taux
c'est là que ça risque de
et là, ce scénario ne tiendra pas, en l'occurrence.
Alors, ça coincera sur deux éléments. D'une part, que les banquiers centraux resteront très agressifs dans leur discours. Oui. Ça sera le premier élément assez négatif. Et deuxième élément, parce que si je maintiens ce scénario et si j'ai raison, c'est que ça sera très négatif pour certaines marges et pour certains secteurs d'activité. Et ça, par contre, ça sera... donc, tous les secteurs qui sont très dépendants des matières premières, comme les industriels. C'est vrai que Microsoft, si vous avez le cours du pétrole qui augmente, ça va pas beaucoup affecter Microsoft. Par contre, des valeurs industrielles ou qui dépendent de l'acier, des prix du pétrole, eux seront beaucoup plus affectés. Donc ça va jouer. Et puis surtout, ça va rendre très nerveux quand même les banquiers centraux pour un élément, c'est qu'ils pensent que la partie de l'inflation dans les services va rester très forte. Les services sont moins concurrencés, moins ouverts à l'économie extérieure. Ils seront moins affectés par la concurrence de la Chine qui va revenir sur les marchés, parce que réouverture de la Chine, ça veut dire aussi concurrence chinoise qui est là. Donc vraiment, on perd en pricing power, on perd en capacité à relever ses prix. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même une partie de l'économie qui va peut-être un petit peu mieux s'en sortir, mais qui entraînera l'inflation globale. Donc ça veut dire qu'on va quand même rester sur des discours de banquiers centraux qui vont rester assez forts. Donc, et là où il y a un petit risque, c'est dans les anticipations de baisse des taux d'ici la fin de l'année sur les marchés, qui me semblent vraiment, vraiment très optimistes aujourd'hui.
Donc la réouverture de la Chine, l'année du lapin, cette réouverture risque de se transformer en éventuel supplice chinois sur les taux, puisque la réouverture chinoise pourrait créer, allez, peut-être une nouvelle jambe d'inflation, peut-être pas aussi puissante, mais quand même soutenir un peu l'inflation en deuxième partie d'année et donc décevoir les marchés sur leurs anticipations de baisse de taux.
Oui, le lapin d'eau, d'ailleurs.
C'est le lapin d'eau, vous avez raison. Oui.
Il faut pas se noyer.
Dans la chinoise, le lapin d'eau, puisque c'est l'année du lapin d'eau, est agile mais peu déterminé. Il a donc du mal à bâtir dans la durée.
Voilà. Et c'est un signe d'une année complexe, très incertaine, très surprenante. Non, mais effectivement, pour être un peu plus sérieux, c'est bien que ce soit sérieux, une reprise trop rapide et trop brutale de l'économie chinoise dans la rubrique bad news is good news et good news is bad news serait effectivement une mauvaise chose pour toutes les raisons que Christian a expliquées. Donc c'est un point très 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 important à suivre. Maintenant, on n'en est pas là non plus, et en même temps, la Chine, ou en tout cas une restauration d'échanges équilibrés avec la Chine, quand même quelque chose au niveau global qui est important aussi. Donc
oui.
Pour l'instant, le marché est un peu balancé sur ce thème-là.
C'est vrai qu'on voit aussi la réinstauration du dialogue entre Américains et Chinois, malgré tout, des signes de réouverture politique aussi, alors limitée, mais quand même une dynamique un peu plus favorable là-dessus. Ouais.
Sur le deuxième point concernant le jeu value-croissance sur le marché des actions, là, je voudrais quand même signifier quelque chose. C'est vrai, on a toujours trop tendance... Il y a un petit côté marketing à mettre pour l'éternité un certain type de valeur dans le clan value et d'autres dans le clan croissance. D'ailleurs, des valeurs de faible croissance ont été mises l'année dernière dans le camp des défensives, alors qu'elles ont la même logique d'évolution que les valeurs de plus forte croissance. Mais côté américain, il faut bien voir que les choses, au moins en termes relatifs, ont évolué. Si je vous pose la question, Guillaume, quelle est la première valeur du S&P 500 value? Vous me répondez? C'est Microsoft. Et dans les 10 premières valeurs, vous avez Amazon. Alors, Amazon, c'est pas forcément une valeur technologique, mais c'est une GAFAM. Et puis, il y a Meta. Donc, comme quoi, en termes relatifs, on est rentré dans une phase, après tout ce qui s'est passé, où les choses sont moins, si vous voulez, quand on dit value, quelle value?
On a des valeurs de croissance devenues value, c'est ce que vous voulez nous dire.
Mais ça arrive.
Microsoft, voilà. C'est la première value, ça veut dire quoi?
C'est la première pondération de l'indice. C'est pas forcément la moins chère, mais c'est la première pondération. D'accord. Mais si vous regardez un groupe comme Google Alphabet, je crois que son PE est tombé en dessous de 17 fois, en fait, les résultats attendus, ce qui est dans l'absolu pas très bon marché, mais historiquement plutôt bon marché. Vous voyez, donc les choses se rééquilibrent un petit peu.
Merci à tous les deux.
Merci.
Intéressant. Yves Maillot, président de YAM Capital. Christian Parizeau, président d'Altair Economics. Bonne soirée, messieurs. Dans un instant, Étienne Brack depuis la Tour Euronext pour vivre ensemble la clôture des marchés en direct en Europe. On se retrouve juste après la pause dans 2 minutes. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Bien sûr, BFM Business, 17h37, c'est la clôture. On rejoint tout de suite ensemble en direct Étienne Brack depuis la Tour Euronext. Rebonsoir Étienne, on termine cette première de la semaine dans le vert en Europe.
Bonsoir à tous. Et au-delà des 7000 points, puisque vous avez un indice parisien qui clôture à 7032 points, c'est une petite hausse de 0,5%, hausse en trompe-l'œil, hein, puisque quand vous regardez les volumes d'échanges, c'est particulièrement faible, moins de 2,5 milliards d'euros échangés dans l'indice parisien. Ça montre bien qu'il y a peu d'investisseurs présents sur ce marché, beaucoup d'attentisme avant les publications cette semaine, mais des opérateurs qui commencent déjà à acheter les publications de la semaine, puisque les trois plus fortes hausses de l'indice parisien sont Alstom, STM, qui vont publier leurs résultats en milieu de semaine avec des gains de plus de 2,5% pour ces deux valeurs, et puis à l'inverse, les valeurs défensives qui ferment la marche. Mais bon, on est sur des baisses vraiment très limitées, puisque Sanofi est la plus forte baisse et un titre qui perd seulement 0,9%. Idem pour Air Liquide, Orange également qui sous-performe le marché. Puis à noter, les cours du pétrole qui continuent de remonter avec la réouverture de la Chine, avec un baril de Brent qui gagne plus d'1% et qui se rapproche des 89 dollars ce soir. Et l'euro-dollar qui avait passé les 1,09 pour la première fois depuis avril 2022 les a perdus, 1,0869 à l'instant, mais on reste quand même proche de ce niveau symbolique. Et donc le CAC 40 qui gagne 0,5% ce soir à la clôture, au-delà des 7000 points, on gagne toujours plus de 8% depuis le début de l'année, 7032 points, le tout avec des volumes donc particulièrement faibles, 2,4 milliards d'euros échangés ce soir dans le CAC 40.
Merci Étienne, cette hausse qui sonne creux, donc on va en parler, on va continuer d'analyser cette séance, la débriefer pour aller vous aider à faire votre miel, pourquoi pas ajuster vos portefeuilles. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur vos portefeuilles boursiers, n'hésitez pas à nous les envoyer, vos questions en scannant, en flashant ce QR code qui apparaît tout au long de l'après-midi sur antenne de BFM Business. En flashant ce QR code et en nous envoyant votre question, bien tout à l'heure, vous pourrez écouter notre expert vous répondre. Ce sera en direct sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook, nos réseaux sociaux BFM Bourse et BFM Business. Amaury de Tonquédec l'interrogera, lui transmettra vos interrogations si vous flashez ou vous scannez ce QR code, ou encore si vous nous suivez à la radio en nous envoyant votre question par mail à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr.
BFM Business, BFM Bourse, on refait la séance.
Grâce ce soir à Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora, il vient de nous rejoindre. Bonsoir Eric.
Bonsoir mon cher Guillaume.
Bienvenue, on est ravis de vous accueillir.
Merci beaucoup.
D'autant qu'on entame cette nouvelle semaine, Eric, dans le vert, plus 0,5%. On est toujours en progression depuis le début de l'année de plus de 8%. Dividendes réinvestis, on est presque sur les records absolus, c'est absolument dingue. Et on n'a toujours pas envie de véritablement reprendre son souffle. Ça tient.
Non mais pourquoi c'est dingue?
Bah c'est dingue, on n'a jamais vécu un tel début d'année.
Ouais, mais enfin, les tensions inflationnistes, on voit très bien que dans le monde, ont tendance à se réduire. Vous avez vu, c'est un chiffre qui est passé complètement inaperçu. Mais la semaine dernière, pour la première fois depuis 49 semaines, il y a eu des flux positifs sur les actions européennes.
Au miracle.
À hauteur de 200 millions d'euros. On avait eu 49 semaines de décollecte. Là, on a une semaine plutôt positive, ce qui est une bonne nouvelle. Du côté des entreprises, pour l'instant, sur les États-Unis, c'est pas Byzance, mais c'est pas non plus catastrophique. Et puis là, on va rentrer dans la publication des résultats. Ce que j'ai envie de dire, c'est que tant qu'on n'aura pas les résultats, et surtout un peu plus d'indications sur les banques centrales, alors on était un peu inquiets la semaine dernière, notamment non pas du côté de la Fed, parce qu'on se rend compte quand même que la Fed ne pourra aller pas plus loin que 25 points de base, je pense, la semaine prochaine. On a été inquiets de la BCE. On a eu des membres de la BCE qui ont été un petit peu fermes en disant il y aura peut-être 2 fois 50 points de base, etc. Donc ça a un peu inquiété les investisseurs. Mais enfin, je regardais les taux à 10 ans. Ça s'est un petit peu tendu sur la semaine, mais pas énormément. Le 10 ans français était à 2,63 lundi dernier quand on a fait l'émission. Il est à 2,67. Donc il n'y a pas non plus de tension. Et ce qui se passe est assez logique, parce que les investisseurs n'ont pas envie de vendre, n'ont pas envie d'être à l'écart. Il y en a beaucoup quand même qui étaient complètement à l'écart, qui n'ont pas vu cette hausse. Et donc là, on va attendre ces publications de résultats et on va attendre ces réunions BCE et Fed pour se faire une idée. Alors moi, ça me fait marrer quand on me dit une reprise en trompe-l'œil, etc. Oui, bon, la reprise est là, qu'il y a eu 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards ou 1 milliard. Quand on monte ou quand on baisse, on va pas commenter aussi les volumes.
Bah si.
Oui, mais enfin,
bah, bien sûr que si.
Non, si sur une année, vous gagnez 20%, vous n'allez pas dire ouais, mais c'est une année en demi-teinte parce qu'il y a eu 30% de volume en moins, vous comprenez? Il y a la perf, point barre. Non, mais là-dessus, je.
Pas d'accord du tout. Non, mais absolument pas d'accord. Vous connaissez l'adage. Un point ne fait pas une tendance. C'est pas parce qu'on a progressé aujourd'hui dans des volumes faibles qu'on va transformer l'essai forcément demain. D'autant que les volumes étaient faibles aujourd'hui, Eric.
On peut progresser pendant un mois avec des volumes faibles. La tendance est quand même là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'on peut prendre par l'inverse, c'est-à-dire dire que depuis le début de l'année, on a gagné plus de 8% sur le CAC dans de gros volumes et que ça vient solidifier encore cette hausse, ou même ce discours, vous ne l'achetez pas? Si vous l'achetez, vous n'êtes pas cohérent.
Non, j'achète pas non plus. J'achète pas plus cette histoire de volume.
Vous ne regardez pas les volumes?
Non, je ne regarde pas tellement les volumes. C'est bien sûr, quand il y a très très peu de volumes, des séances à 600, 700 millions d'euros comme on a pu avoir, je regarde. Mais je regarde pas que les volumes. Je regarde plutôt la tendance, je regarde plutôt tous les faits. C'est comme je regarde peu le chartiste, je suis très peu chart.
Donc vous regardez aussi les volumes, mais pas que.
Pas que.
Bon.
Je l'ai eu.
Les publications, il y en aura beaucoup cette semaine, ça va être super intéressant.
Super intéressant.
Trois, notamment sur le CAC, LVMH particulièrement, mais il ne faudra pas oublier les autres quand même, Alstom et ST Microelectronics. Est-ce qu'il y en a une dont vous vous dites, celle-là, elle a particulièrement d'intérêt pour nos auditeurs et téléspectateurs?
Bon, LVMH, c'est pour voir si, pour une fois, ils vont nous surprendre négativement, mais j'y crois pas. Je regardais LVMH, c'est quand même incroyable. Entre 2019 et 2023, la rentabilité opérationnelle est passée de 21,7% à 29,7%. Ils ont gagné 8 points de rentabilité opérationnelle, ce qui est complètement dingue, sans dégradation de la situation financière, avec des forts croissances. Ça sera intéressant de regarder le titre. 400 milliards de capi, je crois que c'est 17% du CAC, première capitalisation européenne, on en a beaucoup parlé. Je vais regarder aussi Alstom de très près, ce qui est intéressant sur Alstom, je crois que c'est un chiffre d'affaires du troisième trimestre, si je ne dis pas de bêtises. C'est voir est-ce que on aura des indications sur Bombardier. Vous savez que Bombardier était un petit peu la problématique pour la société.
La plaie.
Depuis 3 mois, l'action gagne quand même 35% sur Alstom. Hein, on vaut autour de 26 euros, au-dessus des 26 euros. Mais on reste quand même en baisse de 30% sur un an. Moi, je trouve que le titre n'est pas très cher à 12 fois les bénéfices.
Mais on dit ça depuis longtemps, c'est ça le problème.
Oui, mais ça vient de...
Là, ça remonte, ça remonte.
Non, mais moi, je pense qu'un titre, c'est un titre qui peut retrouver les 40 euros assez facilement, à condition qu'on se rende compte que les synergies avec Bombardier sont là, que les contrats avec Bombardier sont des contrats bien marchés, parce que c'est des reproches qu'on pouvait faire. Enfin, dernière publi, un dossier que j'aime bien, c'est toujours STM, ST Microelectronics, dans les semi-conducteurs. Là, c'est vraiment un dossier qui est pas très cher. Je crois qu'on attend à peu près 20 milliards de chiffre d'affaires, si je dis pas de bêtises, avec une marge brute autour de 47%. Ça vaut 11 fois les bénéfices. Sur STM, je pense que si la publication est bonne, on peut aller vers les 46 euros. Mais je crois que sur les résultats, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai pas tellement d'inquiétude sur ce Q4. La vraie inquiétude, ça sera à partir de, sans doute, la fin du premier trimestre et surtout sur le second trimestre, avec l'impact des hausses des taux. Vous savez qu'en général, alors c'est la théorie économique, on dit qu'une hausse des taux met entre 15 mois et 18 mois à se diffuser dans l'économie. Donc, à mon avis, c'est pas pour tout de suite les inquiétudes, ça sera plutôt dans 3 mois. Donc, c'est pour ça qu'on voit, depuis les débuts des publications, qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise surprise. Il y a eu, on en a parlé la semaine dernière, Ubisoft, avertissement, mais bon, on est dans un autre paradigme. Mais sinon, même aux États-Unis, on a eu beaucoup de suppressions d'emplois, on a eu beaucoup de problématiques comme ça. Mais il n'y a pas eu vraiment de mauvaises surprises qui ont fait baisser les marchés. Et donc, je crois qu'en termes microéconomie, sauf si vous avez un PDG qui va émettre des prévisions un peu déconnectées de ce qu'attendent les analystes, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir de mauvaises surprises.
C'est-à-dire qu'on pourrait, même si on avait des mauvaises surprises entreprise par entreprise, ça n'impacterait pas le directionnel des marchés. C'est ce que nous disait tout à l'heure Christian Parizeau. Il nous disait, bien sûr, avec les vents tourbillonnants qu'on a en ce moment macroéconomiques et le manque de visibilité, on aura des surprises, bonnes ou mauvaises. Mais ces publications, nous disait-il, n'impacteront sans doute pas le directionnel des marchés. C'est aussi ce que vous vous dites. Je vous pose la question parce qu'en effet, on a vu aussi la semaine dernière des avertissements, des warnings Lululemon aux États-Unis, Fnac Darty aussi nous annonçait une fin d'année qui avait été décevante. On avait vu aussi un spécialiste de la chimie allemande annoncer un warning. Ça n'a pas eu d'impact réel sur les indices. Ça a eu des impacts titre par titre, valeur par valeur, mais pas sur les indices.
Dans le cas de Fnac Darty, c'est un dossier quand même qui a été maltraité depuis un an, et donc on se doutait qu'il pourrait y avoir une mauvaise nouvelle. C'est comme un dossier qui va publier cette semaine, c'est Maison du Monde. Il va avoir une publication sur Maison du Monde. Les 9 premiers mois de l'année ont été compliqués sur Maison du Monde. Le premier semestre, je crois qu'il y a une baisse du résultat opérationnel de l'ordre de 45%. Et le titre n'a pas fait grand-chose. Il a progressé depuis 3 mois, mais quand on regarde sur 1 an, sur 3 ans, c'est un titre qui est en forte baisse. Donc, on a le sentiment quand même que sur tous ces titres-là, c'est déjà intégré. Alors, il est bien évident que si sur LVMH, il y a vraiment une grosse erreur de trajectoire, il peut y avoir des prises de bénéfices, par exemple sur LVMH, des choses comme ça. Mais de toute façon, des grosses surprises sur le CAC 40, il n'y en a pas eu énormément. Même par le passé, c'est assez rare. Les grosses surprises, c'est plutôt sur des valeurs tech sur lesquelles on attend beaucoup, sur des valeurs du SBF 120 qui déçoit fortement. Donc là, je suis pas tellement inquiet sur la période des publications, même si aux États-Unis on peut en parler. Il y a quand même beaucoup de suppressions d'emplois, il y a beaucoup de problématiques.
Oui, et alors quand il y a des suppressions d'emplois et que les valeurs de la tech, les sociétés de la tech annoncent en effet des restructurations pour préserver leurs marges, bon, ben, pour le coup, Wall Street achète. On voit aujourd'hui, par exemple, Spotify, géant suédois, coté à Wall Street, Spotify annonçait des licenciements et ce titre, comme Microsoft ou Google la semaine dernière, ce titre progresse aujourd'hui. Voilà, les efforts sur les marges sont récompensés. Spotify gagne 3,5%.
Moi, ce que je veux dire quand même sur ces techs qui licencient, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous savez, avec le Covid, elles ont énormément embauché.
Oui, oui.
Je vais prendre le cas de Microsoft. Fin 2019, il y avait 163 000 salariés chez Microsoft dans le monde. Il y en avait 220 000 il y a quelques semaines. Ils ont annoncé quoi? Ils ont annoncé la suppression de 10 000 emplois. Donc, bien sûr, quand vous dites, waouh, 10 000 emplois, c'est dingue. Mais faites 163 000, 220 000, vous enlevez 10 000 emplois, ça fait toujours 210 000. Mmh. Ça veut dire qu'en 2 ans, ils ont quand même créé 47 000 emplois.
Tout à fait.
Et pourquoi les techs ne baissent pas? C'est parce que les investisseurs se rendent bien compte qu'en fait, on ajuste l'emploi parce qu'elles avaient énormément embauché avec le Covid, qui était une situation de digitalisation sur laquelle on va pas revenir. Et donc là, comme on revient dans un processus normal, c'est normal qu'il y ait des licenciements. Et donc le chômage qui va arriver derrière tout ça, si vous voulez, est un peu un espèce de chômage conjoncturel. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'il y a des suppressions d'emplois parce qu'on avait beaucoup embauché, mais c'est pas parce que la tech est en crise, c'est parce qu'on revient à des niveaux normatifs beaucoup plus en phase avec la réalité économique.
Vous savez qu'il y a 30 ans aujourd'hui, Eric, il est né le 23 janvier 1993, le tout premier ETF.
Gestion passive.
Ouais, c'était la naissance, la mise au monde de la gestion passive, le premier tracker ETF, 23 janvier 1993. Et depuis, les ETF inondent le monde, apportent énormément de liquidités au marché. Pour les investisseurs particuliers, c'est un recours, c'est un secours, les ETF.
Ouais, il y a quelques frais quand même.
Bon, enfin, beaucoup moins que sur les fonds de gestion actifs.
Non, mais moi, mon but, c'est pas de critiquer les ETF. Moi, comme j'ai une logique de stock picking, je trouve que les ETF, si vous voulez, ça peut être bien. Très franchement, par exemple, pour jouer la transition énergétique. Je crois qu'il y a des ETF qui ont été créés pour jouer les cryptos, pour jouer la blockchain. C'est vrai qu'un particulier, jouer la blockchain aujourd'hui, ça peut être compliqué pour un particulier. Je parle pas d'acheter du Bitcoin ou d'acheter l'Ethereum. Donc, c'est vrai qu'il y a un effet intéressant. Mais moi, j'aime toujours cette logique de stock picking parce que je trouve que c'est vraiment passionnant et c'est vraiment intéressant.
Parce que vous avez le temps.
Ouais, parce que j'ai
l'investisseur particulier, il n'a pas forcément le temps, valeur par valeur. Oui.
Enfin, les investisseurs particuliers, je peux vous assurer qu'ils préfèrent. Moi, je vois chez Agora, où on a quand même eu 30 000 abonnés, ils aiment bien aussi les conseils en direct sur les petites valeurs, parce qu'il y a de l'adrénaline. Donc, c'est vrai que les ETF, moi, je trouve que les ETF sont intéressants sur des thèmes particuliers. Vous êtes français, vous voulez jouer la Chine, il est évident que c'est compliqué de jouer la Chine. Donc, jouer un ETF sur la Chine, jouer un ETF sur Taïwan, sur la transition énergétique, c'est une bonne chose. Maintenant, moi, j'aime beaucoup cette logique de stock picking parce que le stock picking, notamment sur les small et mid, c'est là où vous pouvez faire vraiment de la performance. Alors, c'est sûr que depuis 1 an, vous allez me dire, c'est compliqué. C'est vrai que les small font moins bien, mais il y a quand même toujours cette notion de stock picking que j'aime.
Non, mais c'est sûr. Il y a des ETF surtout, si vous voulez investir dans la thématique de l'eau, dans la thématique du cannabis, ça existe également aux États-Unis, en Amérique du Nord, dans la thématique anti-ESG aussi. Il y a un ETF anti-ESG
qui a vu le jour là-bas. Je serais curieux de savoir sa composition, parce que sur l'ESG, il y a quand même beaucoup de choses à dire en termes de notation. C'est-à-dire que je ne comprends pas qu'il n'y ait pas, mais c'est un autre débat, pourquoi il n'y a pas une agence de notation mondiale sur l'ESG et qu'on ait vraiment des sociétés qui répondent à tous ces critères et pas qu'on s'aperçoive au gré et au fil des informations que telle ou telle société n'est pas ESG et qu'elle perd après 45% en ligne droite, comme on a pu le voir avec nos amis de Téléperformance en novembre dernier.
Alors justement, du côté des autres sociétés qu'il va falloir suivre cette semaine, on reste dans stock picking, petite partie de celui que vous aimiez, que vous appréciez, et toujours en essayant d'apporter un coup d'avance à nos auditeurs et téléspectateurs. Il y aura beaucoup de publications sur le CAC, on en a parlé, mais surtout dans l'univers des small et mid. Demain, Interparfums, Compagnie des Alpes, Partouche, en fin de semaine, on aura Elior. Quels sont dans l'univers
vous
des petites
et moyennes valeurs le cannabis, les jeux, vous parlez de cannabis, pourquoi de Partouche, des jeux, je vous trouve un petit peu en ce moment...
C'est l'actu, demain ouais. Partouche publie.
Maison du Monde, dans la semaine, il faudra suivre ça de près. Un titre qui a pas fait, enfin, qui remontait quand même de 30%, mais qui a eu pas mal de difficultés. Qui a deux actionnaires qui ont 20%, notamment Majorel Investissement, qui est l'un des holdings de la famille de Gabriel Naouri, le fils de Jean-Charles Naouri, le patron de Casino. Moi, je pense toujours qu'il peut y avoir une opération capitalistique sur Maison du Monde. Et puis, il y a un dossier intéressant, c'est Sartorius Stedim, équipement pour l'industrie biopharma. C'est une société qui a valu jusqu'à 510 €, qui doit valoir autour de 330 €. On est vraiment dans la pure valeur de croissance, tous les ans entre 15 et 17% de croissance, 30% de rentabilité. Un titre qui n'a pas fait grand chose par rapport à son plus haut. Ça serait intéressant de savoir si, un, ils maintiennent les performances, et si, deux, le titre va sortir de sa torpeur. Ce qui n'est pas évident, mais en tout cas, enfin, cette semaine va être très intéressante. Et puis, je crois que du côté du CAC 40, il doit y avoir du Publicis.
Oui, exact.
Publicis, quand même, qui se tient très bien et qui, à mon avis, n'est pas très cher. Si on n'avait pas une publication catastrophique, je crois que ça vaut entre 12 et 13 fois les bénéfices, qui n'est pas très cher. Comme quoi, Arthur Sadoun a su parfaitement reprendre les rênes de Maurice Lévy et faire de Publicis quand même une très belle boîte, alors que plus personne ne voulait être pub, de société dans la pub il y a quelques années. Franchement, c'est un beau dossier, il pourrait peut-être nous réserver même une bonne surprise.
Le Maurice Lévy des placements, c'est Christian Fontaine, qu'on retrouve chaque lundi à 7h06, 17h53 au téléphone. Christian Fontaine,
on a le look.
Le directeur de la rédaction adjointe du magazine Le Revenu. Bonsoir Christian.
Bonsoir à tous, bonsoir messieurs.
On est ravis de vous retrouver en direct, Christian. Cette question d'une auditrice, elle s'appelle Camille. Qu'est-ce que l'allocation d'actifs? Je vous entends tout le temps, c'est pas facile. Nous parler d'allocation d'actifs dans vos émissions placement et bourse, de quoi s'agit-il?
Alors c'est tout simplement en fait la répartition de votre patrimoine entre les grandes familles de placement, l'or, les actions, les obligations, l'immobilier de rapport. Et c'est vrai que sur votre antenne et au revenu aussi, on passe beaucoup de temps à expliquer aux auditeurs, aux lecteurs, aux abonnés qu'il faut choisir avec soin son contrat d'assurance vie, son plan d'épargne retraite, ses actions avec une approche de stock picking, c'est vrai. Mais regardez l'évolution des marchés, Guillaume, depuis le début d'année, qui aujourd'hui a réalisé le 23 janvier 2023, 23 jours après le début de l'année, de bonnes performances avec ses placements. Et bien c'est tout simplement... C'est pas celui qui a forcément le meilleur produit, c'est tout simplement celui qui avait investi, qui est investi en actions, puisque les actions battent largement depuis le début d'année l'ensemble de tous les autres placements. Donc le coup gagnant en début d'année, c'était les actions au sens global du terme. Et même si on cherche à faire de l'allocation d'actifs au sein de cette poche actions, eh bien, qui bat les voisins, c'est ceux qui ont joué les actions européennes et pas les actions américaines. Et même au sein des actions européennes, c'est plutôt, n'en déplaise à mon ami Eric Lewin, plutôt les grandes caps plutôt que les small. Donc, ce qui est très important, voilà, cette notion d'allocation d'actifs explique en bonne partie la performance de vos placements. Donc, il faut s'y intéresser.
Quelle répartition recommandez-vous pour une allocation d'actifs idéale?
Alors ça c'est un peu la question à 1 000 €, ça dépend bien sûr de votre âge, de votre profil, etc. Mais on ne va pas botter en touche, c'est trop facile. Donc au revenu, pour quelqu'un qui a 40-50 ans, on recommande 50% d'immobilier, y compris l'immobilier d'habitation, et 50% de placement financier. Et au sein de cette enveloppe de placement financier, on va dire, allez, on va s'engager un tout petit peu, mon cher Guillaume, 55% d'actions, 25% d'obligations et 20% de liquidités au sens large. Et au sein de la poche action, on terminera sur les derniers chiffres. France, 25%, 20% Europe hors France, 40% Amérique du Nord, 10% émergents et 5% Japon. Et donc, pour terminer, en fait, vous voyez bien que lorsqu'on regarde les portefeuilles et les placements, la composition des placements des Français, on remarque quoi? On remarque qu'il y a toujours trop de liquidités et pas assez d'actions. Et donc, en cette année 2023, un conseil que l'on peut donner à vos auditeurs, c'est: réduisez les sommes que vous avez sur les comptes courants non rémunérés, sur les livrets d'épargne réglementés ou pas. Certes, ils vont rapporter plus que hier, il n'empêche qu'ils rapportent encore moins que la hausse des prix, et augmentez la poche de vos placements investis dans l'appareil productif, tout simplement parce que c'est rentable. Donc, on va commencer par les actions et n'oubliez pas ce qui fera la différence avec vos voisins à la fin de l'année, c'est ce qu'on appelle l'allocation d'actifs, c'est la répartition de votre patrimoine entre les grandes familles de placement.
Voilà, et bientôt un ETF Christian Fontaine hein, pour pouvoir...
On dirait un
comme
professeur
ça.
D'université, vous ne trouvez pas ? On dirait un professeur, il est très doctoral. C'est le bon professeur d'université en deuxième année avec ses étudiants.
Bah, c'est la hauteur de vue. Hein. Ah oui, et vous ça, avez vu plutôt les grandes...
Il a du talent, il a du talent.
Plutôt
a...
les grandes que les petites capitalisations d'accord, pour d'accord. Christian Fontaine. Vous êtes d'accord avec ça ? Plutôt les grandes que les petites valeurs.
Non, moi je suis toujours stop picking, mais là-dessus il a raison. Les grandes ont mieux, mieux performé, donc rendons à César ce qui est à César Fontaine.
Et Christian Fontaine, exactement. Directeur de la rédaction adjointe du magazine Le Revenu. Merci beaucoup Christian de nous avoir accompagnés. Eric Lewin dans un instant sur nos réseaux avec Amaury de Tonquédec pour le débrief. Courez-y, vous tous qui nous écoutez sur nos réseaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, il répondra à vos questions, celles que vous nous avez envoyées tout au long de l'après-midi en scannant le QR code hein, qui est apparu sur votre écran ou par mail. Vous pouvez continuer de nous envoyer vos questions à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.